With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, on triga. Me serrer la main. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Sophie a découvert à l'âge de 9 ans que sa maman n'était pas sa mère biologique, un secret de famille qu'elle va devoir garder pour elle pendant des années. Alors, son rêve à elle sera de fonder une grande famille plus traditionnelle et sans aucun secret. Seulement, la vie lui réserve une autre aventure dans la maternité qui va l'emmener à l'autre bout du monde. Après son mariage, la suite logique pour Sophie est de tomber enceinte, mais les mois passent et toujours pas de bébé. Alors, le couple va faire des examens de fertilité, puis une stimulation ovarienne, puis des FIV, et même avoir recours au don d'ovocytes en dernière chance. Mais toujours rien. Elle ne tombe pas enceinte et après avoir tout tenté pour devenir mère, avec son mari, décide d'adopter un enfant. S'en suivent de longues années d'attente jusqu'à ce coup de téléphone où on leur annonce qu'un petit garçon de quelques mois les attend en Corée. Dans cet épisode, Sophie nous raconte son enfance sous le poids d'un lourd secret de famille, comment elle a repris contact avec sa mère biologique, son parcours pour devenir maman et la rencontre avec son fils tant attendu. Bonne écoute!
Bonjour Sophie!
Bonjour Shane!
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci de m'accueillir.
Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a ?
Alors Gabriel, il a aujourd'hui 10 ans.
On va revenir donc un petit peu en arrière. On va remonter le fil des années. Déjà, toi, avant de devenir mère, quel regard tu portais sur la maternité ?
Alors moi, j'ai toujours voulu être maman, depuis toujours. J'avais un regard... un peu particulier sur la maternité, puisque ma propre histoire, en fait, n'était déjà pas ce qu'on peut dire classique, puisque j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 9 ans avec mon papa et ma maman, sans savoir qu'en réalité, ce n'était pas ma maman. Voilà.
Ah, d'accord.
Je l'ai découvert par hasard. Enfin, on me l'a dit, mais les enfants sentent beaucoup de choses, donc je sentais qu'il y avait quelque chose. Et quand on me l'a annoncé, en fait, c'était la révélation. Et en même temps, je savais que voilà, c'était comme ça, je l'avais senti. Donc voilà, une histoire un petit peu particulière jusqu'à l'âge où moi-même, j'ai voulu être maman. En me disant que ce que j'avais vécu, en fait, je voulais que ce soit complètement différent de mon histoire. Et je ne voulais pas reproduire, en fait, ce que moi, j'avais vécu.
D'accord.
Donc j'avais ce désir d'être maman de façon idyllique, si on peut dire. Bon, on sait bien que c'est pas possible, une relation de maman avec son enfant, c'est jamais tout beau tout rose, mais en tout cas moi j'avais cette volonté de faire quelque chose de parfait. Voilà. Mmh.
Tu voulais reconstruire un peu une famille dite traditionnelle.
Oui, c'est ça. Et en même temps, l'histoire que j'ai eue a fait celle que je suis aujourd'hui.
Ouais.
Mais je voulais pas reproduire les erreurs qui avaient eu lieu pendant mon enfance. Voilà, donc j'avais envie d'enfant. Je m'imaginais déjà avec beaucoup d'enfants.
Ouais.
Et puis bah la vie, bah non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple. Et quand j'ai rencontré mon mari, lui vient d'une grande famille. C'est le dernier d'une famille de 6 et il a 5 sœurs avant lui.
D'accord.
Donc, il a toujours évolué avec beaucoup d'enfants. Ses sœurs ont eu des enfants, donc il a toujours été entouré avec des neveux, des nièces. Voilà, donc lui voulait aussi beaucoup d'enfants. Donc, c'était une évidence. Mmh. On s'est mariés et pour nous, c'était la suite logique. Voilà, on était étudiants quand on s'est mariés.
D'accord.
Voilà, on était étudiants, on n'a pas attendu, on va dire, pour se marier parce que j'avais perdu mon papa. quelques temps avant. Mon mari l'a pas connue, en fait. On s'est rencontrés 15 jours après le décès de mon papa.
D'accord.
En fait. Et donc, il l'a pas connue. Il ne me restait que mes grands-parents du côté de mon papa, puisqu'il était fils unique. Et mon grand-père étant pas très en forme, j'avais envie qu'il soit là pour notre mariage. Et je voulais que ce soit lui qui m'emmène à l'hôtel, puisqu'on s'est mariés de façon religieuse. Donc, c'était important. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi attendre ? On avait, entre guillemets, la bénédiction de nos familles. Donc, donc on n'a pas attendu. On s'est mariés pendant nos études.
Voilà. D'accord. Est-ce que toi, quand tu as su que la maman qui t'avait élevée n'était pas ta mère biologique, tu as fait des recherches après ou pas ?
Alors, quand je l'ai appris à 9 ans, on m'a dit, ça je me souviens très bien, on m'a dit, il faut en parler à personne. Parce que après, je fais pas le procès hein, de ma. Alors je dis maman puisque c'est quand même elle qui m'a élevée, donc je l'appelle maman, c'est ma maman. Mm-hmm. Et j'ai une deuxième maman, mais elle voulait pas que les gens le sachent parce qu'elle avait peut-être peur qu'on la juge sur sa façon de m'élever après. Donc c'était un secret. Donc il fallait surtout pas en parler. Donc moi j'ai grandi comme ça. Alors j'avoue j'ai fauté puisque quand on est jeune, adolescent, on a besoin de se confier à quelqu'un et c'est un secret qui est beaucoup trop lourd à porter seul.
Oui, oui.
C'est pas possible. Donc bien sûr que j'en ai parlé à certaines personnes et quand elle l'a plus ou moins compris, ça l'a beaucoup fâchée. Donc en fait on n'en a jamais parlé. Elle m'a toujours dit si tu veux la retrouver, je vais t'aider. D'accord. Mais je me voyais pas aller la voir en disant bah tiens si on cherchait. Et surtout j'étais très très proche de mon papa et je savais que ça lui ferait de la peine parce que j'avais compris que leur séparation avait été très difficile.
Okay.
Donc j'ai mis un mouchoir dessus et j'ai dit on verra plus tard. Mais tu grandis avec cette blessure parce que on a tous besoin de savoir d'où on vient. C'est important. Donc, j'ai attendu. Et puis, mon papa est tombé malade quand j'ai eu, je crois, 17 ans. Donc, une longue maladie. Et puis, quand il est décédé, donc j'avais 19 ans, je me suis dit, maintenant, je ne peux plus lui faire de peine. Avec ma mère, c'était tendu. On a toujours eu une relation très conflictuelle à cause de ça. J'ai une petite sœur aussi, donc j'avais pareil avec ma sœur une relation très particulière parce qu'elle le savait aussi et donc il manquait un petit quelque chose entre nous. Et donc j'ai dit, bah maintenant, c'est aussi à moi de prendre ma vie en main et si j'ai envie de la chercher, j'ai besoin de personne. Et je le ferai.
Ok.
Sauf qu'entre-temps, j'ai rencontré mon mari et que je suis partie dans autre chose, ma famille, en me disant, on verra plus tard, il n'y a pas d'urgence.
Donc, elle n'était pas là à ton mariage ?
Non, je ne la connaissais pas.
D'accord.
Non, non, pas du tout.
Alors, vous vous mariez, à quel moment donc, tu disais que c'était la suite logique. Est-ce que tu tombes facilement enceinte après ?
Eh bien, pas du tout. En fait, j'ai voulu faire les choses super bien en disant, bon, maintenant, on est tous les deux, on travaille, on est infirmiers tous les deux, j'ai un CDI, maintenant, j'ai le droit, entre guillemets, d'être enceinte et de pas arriver sur un poste où un mois après je dis ça y est je suis enceinte je pars en congé mat. J'avais toujours quand on est jeune je sais pas hein, mais on a toujours des espèces de principes qu'on se donne et qu'on essaye d'appliquer en réalité ça marche pas toujours et là donc j'ai arrêté ma pilule et ben il se passe rien. Voilà, donc on en parle un peu, on s'inquiète pas trop. Moi je me suis mariée, j'avais tout juste 21 ans.
Ouais.
Donc on me dit oh mais t'as le temps, t'es jeune, vous précipitez pas et arrête d'y penser. Bah oui oui c'est facile mais ça c'est on peut pas ne pas y penser c'est compliqué. Donc on attend un petit peu, on se met pas la pression, on vient de s'installer, on achète une maison donc voilà on fait notre petite vie tranquille. Alors petit à petit mes amies autour de moi bah elles tombent enceintes. Donc, ça rappelle un petit peu que bah, nous, on galère. Et puis, je me souviens d'un moment où... c'était juste avant la préparation de notre mariage où on est avec d'autres couples, on discute et puis on fait une petite pause. Et à l'extérieur, en fait, il y avait un camp avec des petits enfants qui venaient, je crois, si je dis pas de bêtises, des petits Africains qui étaient venus pour visiter la France dans des familles d'accueil. Je sais plus trop dans quel cadre, hein, c'est un peu flou parce que ça remonte maintenant. Et on les voyait dehors jouer et je disais à mon mari, oh ils sont trop mignons. Ces enfants, je crois même que c'était des enfants qui étaient trop grands pour être adoptés, mais qui vivaient dans des foyers dans leur pays. Et je lui disais, tu te rends compte, si on pouvait, on les accueillerait parce que ces enfants, bah, ils manquent que ça, quoi, être accueillis, avoir une famille. Enfin voilà, c'était une petite discussion comme ça, et il me dit, bah écoute. Quand on va fonder notre famille, on aura des enfants et pourquoi pas offrir une chance à un enfant de l'accueillir au sein de la famille. Et voilà quoi. Enfin, c'était un petit peu donnant-donnant. On a la chance d'avoir un enfant, eh bien on va lui donner la chance, lui, d'avoir une famille s'il n'en a pas. C'était très épisodique, hein, on n'en a plus jamais reparlé.
Ouais.
Mais c'était resté comme ça dans un petit coin. Et puis on galère, et puis on se dit, punaise, ça se trouve, ce dont on parlait il y a quelques années, ça va peut-être être la seule solution pour nous s'il se passe rien.
Parce que là, ça fait combien de temps que vous galérez ?
Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais en fait, ça fait presque 9 mois.
D'accord.
Et c'est pas si long que ça, mais je suis jeune, en bonne santé, je vois pas pourquoi ça marche pas. Et d'ailleurs, on ne saura jamais pourquoi ça ne marche pas. Mais je vais voir mon médecin, je lui en parle, elle me dit, bon, je vois bien que ça vous inquiète, pourquoi pas, on va faire un petit test déjà, et puis on verra ce que ça peut donner, on va faire ce qui s'appelle le test de 1 heure. Donc, c'est très... ça ne fait pas rêver, hein, ce n'est pas du tout glamour, toutes ces choses-là, mais... Voilà, il faut faire un prélèvement chez la femme après avoir eu un rapport dans les heures qui suivent pour voir s'il y a présence de spermatozoïdes.
D'accord.
Déjà. Parce que ça ne sert à rien de se lancer dans plein d'examens chez la femme si de base, par exemple, il n'y a aucun spermatozoïde chez l'homme. Là, voilà. Donc elle me dit, on va commencer par faire la base des examens, on va faire ça. Donc, on le fait. On ne sait pas trop, on a beau être infirmier, c'est pas notre partie, donc on lit pas trop parce que quand on ouvre Internet, il y a tout et rien, donc on évite. Et puis on prend rendez-vous, on fait cet examen. Donc j'y vais seule parce que mon mari travaille ce jour-là. Je m'installe confiante, je me dis bon super, pas de souci, elle va forcément me dire que tout va bien et puis on passera à autre chose. Et puis là, en fait, je la vois qui fait le prélèvement, les yeux sur son microscope et qui cherche. Je me dis, elle va bien trouver quelque chose quand même, c'est pas possible. Elle cherche et puis je vois bien que elle fait une mauvaise tête et elle me dit, écoutez, je suis désolée, il y en a, hein, mais c'est pas, voilà, ça bouge pas trop, il y en a pas beaucoup, donc c'est pas très très concluant.
D'accord.
Là déjà. C'est un peu la douche froide, quoi. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne nous avait pas expliqué les conditions pour faire un test comme ça, les meilleures conditions pour le faire. Elle m'avait juste dit, il faudra venir telle heure à telle date et avoir un rapport la veille. Ah oui, c'est pas si simple. En réalité, il y a des jours d'abstinence avant. Et il faut avoir juste un rapport sexuel et venir.
D'accord.
Et ça, si on ne te le dit pas... tu fais pas forcément attention et on n'a pas forcément respecté les 3 jours d'abstinence. Du coup, il n'y a pas tout ce qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, la spermatogénèse, là où les spermatozoïdes se fabriquent, etc. Donc ça coupe un peu ce processus, donc le résultat peut pas être non plus des meilleurs.
D'accord.
Voilà, c'est un petit détail, mais ça aurait pu peut-être aider un peu. Donc, ça ne fonctionne pas, voilà, c'est pas terrible. Donc, elle me dit, c'est pas grave, on va faire chez vous aussi des échographies, voir si vous n'avez pas les trompes obstruées, s'il n'y a pas un souci mécanique de ce côté-là, et puis on va faire des prises de sang, etc. Voilà. Bon, moi, j'avais pris la pilule très peu de temps, finalement, donc Je me disais, ça peut pas être non plus la pilule. Ça faisait peut-être 2 ans que je la prenais seulement. C'était pas, ça faisait pas assez longtemps.
Ouais.
Donc, on fait tout le reste des examens. Il y a aucun souci. Enfin, tout fonctionne bien. Donc, on se dit, ça va. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut peut-être qu'on soit un petit peu aidé. Mais si tout va bien, à part peut-être, on va dire. J'aime pas dire du côté de mon mari ou de mon côté parce qu'on est dans la même galère, mais même s'il n'y a pas un spermogramme de compète, c'est pas ça qui peut empêcher. Tout en sachant qu'il y a des hommes qui ont des enfants et si on devait leur faire aujourd'hui un spermogramme, ils seraient étonnés de voir que c'est pareil, hein, ils n'ont pas un spermogramme tip-top.
Ouais.
Mais si on cherche pas, on peut pas savoir. Donc c'est pas vraiment un frein en soi. Donc elle nous dit on va faire ce qu'on appelle des inséminations artificielles. Donc on va vous stimuler avec des médicaments que vous prendrez pendant je sais plus combien de temps c'était, c'est un peu loin, mais voilà, vous prenez des médicaments, votre mari fait un recueil et on vous met directement les spermatozoïdes au niveau du col, juste un petit peu après, et puis on attend.
T'es dans quel état d'esprit toi quand on t'annonce tout ça? Comment tu le vis?
Forcément, ça fait pas plaisir parce qu'on se dit, j'avais pas prévu ça. C'était pas comme ça que je voyais la conception d'un enfant. Pourquoi je galère? Franchement, c'est une injustice, en fait. C'est une injustice. Comment l'autre va prendre la chose aussi? Parce que on sait que dans certains couples, ça peut créer quand même une cassure, enfin se rejeter la faute. Ou là, en l'occurrence, il n'y avait pas à dire c'est de ta faute ou de la mienne. Il n'y avait pas de responsable. Mais on prend un petit coup quand même dans son amour propre. Hein. On n'est pas capable de faire comme tout le monde. Et puis, il y a aussi les gens qui... Alors, c'est pas méchant, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais on a eu les petites phrases « Bah alors, vous voulez qu'on vous donne le mode d'emploi ?» Ce genre de choses, oui, c'est pour faire de l'humour et être sympa, mais en fait, c'est pas drôle.
Ouais.
Donc au début, on dit rien, puis un jour, on dit « C'est bon quoi, stop, ça va les bêtises, c'est pas si simple et c'est pas comme ça que ça marche. » Voilà. Mais comme je suis pas d'un tempérament à me laisser abattre, mon mari non plus, on a dit « Bah, c'est pas grave, on y va, on essaye tout. Et puis on verra. »
Ouais.
Donc on y va en se disant, ça va marcher. Voilà. Et puis ça marche pas. Donc on fait une insémination, 2, 3. Et au bout de la 3e, mon médecin, enfin ma gynécologue me dit, bon, on va peut-être passer à l'étape au-dessus. Je vais vous envoyer à Paris voir un de mes confrères. Pour faire des fécondations in vitro.
D'accord.
Là, c'est moins rigolo parce qu'on sait que derrière, il y a un traitement plus lourd. Mmh. C'est pas juste des médicaments avalés. Il y a tout ce qui est injection, examen encore un petit peu plus, et puis ponction d'ovocytes. Bon, c'est pas très très sympa, mais c'est pas grave, on y va aussi. Il faut y aller, de toute façon, on sait qu'on veut y arriver, donc
ouais,
on se lance.
Tu discutes avec d'autres personnes à ce moment-là qui sont passées par là ou pas du tout?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout, parce que déjà autour de moi, j'ai soit des copines qui sont déjà enceintes ou pas en couple. Ou... j'ai personne autour de moi dans cette situation. Donc non, je regarde un petit peu sur internet quelques blogs entre guillemets, mais ça va vite m'agacer parce que j'ai l'impression que dans les blogs il y a toujours une fin heureuse, il y a toujours des trucs positifs. Oui, ça y est, je suis enceinte, j'y croyais plus, pourtant les tests étaient négatifs, etc. Ça fonctionne toujours. Et j'avais personne qui me disait, mais ça peut aussi ne jamais fonctionner.
Ouais.
Donc, j'avais envie de positif, mais je voulais aussi qu'on me dise, non, tu peux encore galérer, quoi. Donc, j'ai arrêté. Et je me suis dit, non, on va se débrouiller tout seul. Et en parallèle, j'ai réfléchi et on m'a dit, il y a peut-être un blocage, c'est peut-être dans ta tête, tu bloques par rapport à ton histoire et ça t'empêche d'être enceinte. Donc, je vais voir une psychologue. Il faut y aller, hein. Après tout, pourquoi pas. Donc, je fais ça. Et je me dis, je vais peut-être chercher ma mère aussi. Peut-être que ça va me débloquer.
D'accord.
Donc, je fais des recherches. Finalement, c'est hyper simple. Je pensais pas, mais ça a été très facile.
Ah oui.
Oui, ça a été assez facile puisque ma grand-mère paternelle avait gardé quelques infos. Et comme je voulais le faire toute seule sans en parler ma maman qui m'avait élevée, ni à ma sœur, ni à personne, j'ai cherché toute seule les infos, j'ai trouvé le nom de famille, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, c'était le nom de mes grands-parents, et je suis tombée sur ma grand-mère maternelle. Et je lui ai dit, alors je savais qu'elle habitait en Alsace, je pensais qu'elle était décédée, que c'était mon grand-père qui était toujours vivant, puisque j'avais en parallèle appelé les mairies pour récupérer des actes de naissance. Enfin, j'ai vraiment fait le détective. Hein.
Ouais.
Et donc, avec mon mari, on dit on part en Alsace pour le marché de Noël et j'en profiterai.
D'accord.
Et donc, je prends mon téléphone et j'appelle les 3-4 numéros que j'avais et je tombe sur une dame et je lui dis est-ce que je pourrais parler à monsieur Intel ? Et elle me dit non, mon mari est décédé, je suis sa femme. Et donc là, je comprends que je suis avec ma grand-mère au téléphone. Donc je lui dis, je m'appelle Sophie et je suis votre petite fille. Alors là, les larmes, forcément.
Ouais.
Elle pleurait, je pleurais, tout le monde pleurait. C'était. Et je lui dis, est-ce que je peux venir vous voir ? Et le lendemain, j'étais chez elle.
Ah oui ?
Ouais. Moi, quand j'ai décidé, j'y vais.
Donc à ce moment-là, t'as eu ta grand-mère, mais t'as pas eu ta mère au téléphone.
Non, je lui ai dit ne dites rien, il faut rien lui dire parce que je veux être prête et je veux déjà vous discuter, avoir votre version et après je prendrai contact. Donc elle a respecté presque, puisqu'en fait dès que je suis partie, elle l'a appelée, mais elle a gardé le secret et j'ai envoyé une lettre ensuite. J'ai fait une lettre que j'ai envoyée. Et elle m'a répondu. J'étais au travail, mon mari m'a dit « t'as une lettre ». Il est venu me l'emmener parce que je ne pouvais pas attendre.
Ouais.
Il m'a emmené la lettre au boulot et après je lui ai téléphoné, on a discuté, on s'est vus. Voilà. C'est comme ça que je l'ai retrouvée à 25 ans.
Waouh.
Mmh. Et j'ai découvert des demi-frères et des demi-sœurs en fait. J'avais encore deux demi-frères et deux demi-sœurs.
D'accord.
J'étais l'aînée et elle avait eu encore 4 enfants après moi.
Ah oui.
Elle avait refait sa vie. Voilà. Donc elle m'a expliqué pourquoi elle était partie, dans quelles conditions. Après voilà, ça c'est leur histoire. Moi je voulais pas m'en mêler. Mais j'avais fait ce que je devais faire. Je l'avais retrouvée et j'étais en paix avec moi-même. Voilà.
Donc à partir de ce moment-là, tu gardes contact avec elle régulièrement ou c'était un one-shot
Alors au début, on y retourne toutes les semaines pendant 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai ce besoin en fait de m'identifier, de comprendre. Et puis après, petit à petit, ça s'espace. Et puis, j'ai toujours beaucoup de respect pour elle, j'ai toujours des contacts de temps en temps, par message, etc. On se voit très peu, très très peu. Peut-être qu'elle écoutera le podcast, c'est possible. J'en serais ravie, je veux pas qu'elle se sente blessée ou quoi que ce soit. On a une histoire toutes les deux qui a été difficile, particulière. 25 ans, c'est pas simple. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris que. C'était ma mère biologique, qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait peut-être à son niveau. Je ne lui en veux pas, parce que c'est comme ça, on ne peut pas toujours choisir la façon dont on veut faire. Voilà, on a cette histoire, je la respecte, je l'accueille, il n'y a aucun souci, mais on en est là. Voilà, on n'a pas cette relation d'une mère et d'une fille, Et c'est pas grave.
Mmh.
Voilà, c'est, on avance.
Ouais.
Elle a une place dans ma vie, j'ai une place dans la sienne. Et j'ai ma maman qui m'a élevée aussi. Donc voilà, je peux pas, je sais que ça fait de la peine à chaque fois à l'une et l'autre. Parce que c'est comme une petite compétition. Mais moi, ils font partie de moi, donc on peut pas me demander de faire un choix.
Oui.
Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevée, construite. C'est, elles font partie de ma vie.
Est-ce que au moment où tu retrouves ta maman, donc toi, t'es en plein essai mmh. bébé, est-ce que tu en parles avec elle pour savoir elle comment ça s'est passé, si elle a eu des difficultés ou...
Ouais. Non, elle est tombée enceinte comme ça.
D'accord.
Vraiment très facilement. Ça a été plus compliqué pour sa deuxième grossesse. Elle n'y arrivait pas. Je pense aussi parce que voilà, parce qu'on avait vécu ensemble. Et puis après, elle a eu d'autres enfants. Donc ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci particulier. Il n'y avait pas de.
Mais du coup, tu en as parlé avec elle pour toi.
Oui, on en a parlé un peu toutes les deux. Mais voilà, bah, comme tout le monde, t'inquiète pas, ça va arriver. Ça va bien se passer. On va vous aider, vous allez y arriver.
Ok, donc grosse étape là dans ta vie et grosse étape psychologique. Est-ce qu'il y a du changement suite à ça? Toi, t'espérais que ça débloque quelque chose?
Ouais, j'espérais. Tout en me disant, ce serait un peu facile si on appuyait juste sur un bouton et puis hop, c'est parti. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était indispensable. Donc j'étais beaucoup plus sereine, mais d'un point de vue, pour ma grossesse à moi en tout cas, non, ça n'a rien changé. Je ne suis pas tombée enceinte et on a fait nos FIV comme prévu avec le médecin à Paris qui nous a très bien suivis.
Ouais.
On a fait 3 FIV. Donc la toute première, c'était super bien passé. Je répondais de façon optimale au traitement. Tout allait bien, on a fait la ponction, il m'a dit c'est super, il y a 17 ovocytes, enfin c'est merveilleux. Donc moi je me disais c'est bon quoi, là on y est. Il m'appelle, je rentre à la maison, il m'appelle, il me dit vous inquiétez pas, on a mis en contact les ovocytes et les spermatozoïdes, ça va féconder et je vous rappelle pour vous dire à quel moment on fait l'implantation. Et donc, on attend tout le week-end en disant « Super, on va pouvoir en mettre au congélateur, entre guillemets, pour d'autres tentatives. » Nous, ça y est, on était déjà sur la réussite. Hein.
Mm.
Et donc, il nous appelle dans le week-end, je crois le dimanche matin, et il nous dit « Écoutez, je suis désolée, sur les 17, il n'en reste plus que 5. »
Ah oui.
Ouais, douche froide.
Ah oui.
Et je dis « Mais ils sont passés où les autres ?» C'est pas possible. Vous en avez fait quoi? Là, je rigole parce que maintenant, voilà, c'est fini. Mais je rigolais pas du tout et on était dépités.
Mais oui.
Et il me dit, ben, ça arrive. Voilà, il y en a qui sont pas assez matures, d'autres qui se développent pas. C'est la sélection naturelle. Vous inquiétez pas, on se voit lundi et puis on fera le transfert. Bon, on y va le lundi. Et puis, on devait en mettre, alors normalement, on devait en mettre un, puisqu'on était jeune, en bonne santé, etc. Donc, en principe, avec un, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on en a d'autres voilà, qui nous attendront après. Et il arrive, il dit, bah, écoutez, on va en mettre 2, parce qu'ils ne sont pas terribles.
D'accord.
Et j'en ai plus d'autres. Donc, en plus, on avait tout perdu. Il n'en restait que 2 qui étaient de mauvaise qualité. Donc on pleure, forcément, parce que c'est une très très grosse déception. On était super enthousiastes, tout allait bien, et puis d'un seul coup, plus rien, quoi. Donc il les a quand même implantés, enfin, il les a quand même mis dans l'utérus, mais j'avais cette sensation qu'il le faisait pour achever la procédure, en quelque sorte, pour nous aussi, psychologiquement, ce soit abouti. Tout en sachant que la qualité n'était pas assez bonne pour que ça donne quelque chose. Mais voilà, il est assez... c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, très, très délicat, beaucoup de psychologie, vraiment quelqu'un de très très bien. Donc voilà, il a fait les choses comme il fallait et on avait besoin d'aller au bout de cette étape. On fait l'implantation, on repart. Alors, on aurait dû être joyeux, mais pas du tout. Je passe 15 jours à me dire de toute façon c'est cuit, avec toujours un petit espoir quand même au fond, parce que,
oui.
parce que c'est ce qui fait vivre aussi, c'est ce qui fait avancer, donc on essaye. Je commence à avoir des douleurs au sein, alors dès qu'il y a un petit truc, on se dit « mais attends, un tel, elle avait mal au sein, mais elle était enceinte, elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre, mais c'était pas ses règles, elle était enceinte. Enfin, » J'analyse tout, on ne comprend plus, on met tout en suspens, le moindre signe. Et puis arrive le jour de la prise de sang et je me dis « de toute façon, c'est cuit, j'ai mal au ventre, je sais, mes règles arrivent. » Et je fais la prise de sang, bien sûr c'est négatif et mes règles arrivent. Voilà. Donc ça c'est la première, la deuxième, puis la troisième, à chaque fois la même chose, en fait. Et on n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois, c'est la faute de personne.
Oui.
C'est pas de ma faute, c'est pas de la sienne. C'est comme si, c'est peut-être bête hein, ce que je veux dire, mais c'est comme si ça devait pas marcher. Comme si on n'était pas... C'est bizarre de dire ça, mais comme si, de façon biologique, on n'était pas compatible. Ça marche pas. Voilà.
Et là, ça fait combien de temps que vous essayez ?
Je sais pas, je dirais presque 2 ans.
Ouais.
Oui. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu effacé, entre guillemets, cette période parce que c'était pas très... la meilleure période de ma vie, mais on va dire qu'on a commencé les premiers examens en 2005 et on a arrêté en 2009.
D'accord.
Donc en tout, ça fait 4 ans, mais sur les 4 ans, il y a eu les inséminations et les FIV. Donc il faut aussi, on ne fait pas des FIV comme ça tous les 3 mois. On peut, quand on a des ovocytes ou des embryons au congélateur, si on peut dire au congélateur, mais quand il faut refaire tout un procès, toute une procédure de stimulation, il faut laisser quand même quelques cycles. C'est fatigant pour le corps, psychologiquement c'est fatigant, et pour le couple, parce que c'est des rapports programmés à date fixe, c'est des recueils de, de spermatozoïdes pour le conjoint. Là on peut pas partir parce que tous les 2 jours il y a une échographie, on va à Paris tous les 2 jours pendant une semaine, 15 jours pour faire une écho qui dure 5 minutes, hein, mais juste pour calculer le nombre d'ovocytes. C'est tellement rythmé par tout ça que on oublie un peu le reste, qu'on oublie de vivre, on est un peu focus dessus et
donc
ça dure jusqu'en 2009. Et le médecin nous dit, écoutez, vous avez fait 3 FIV, 3 fois stimulé, 3 fois au bloc sous-âgé pour faire la ponction. Il faut peut-être penser à autre chose. Donc, il nous dit, on peut faire un don d'ovocytes. Ok, nous, on est ouvert à plein de choses. Pourquoi pas, c'est moi qui le porte. En même temps, j'étais un peu réticente quand même parce que je me disais... ouais, mais l'ovocyte de quelqu'un, c'est pas moi. C'est un peu de toi, il y a un peu d'une autre que je connais pas. Je me disais, c'est bizarre. C'est soit c'est complètement nous, soit c'est pas du tout nous. J'étais un peu partagée. Bon, réfléchis, je me dis, allez, je veux pas regretter. Il faut tenter. Donc on tente. Et le médecin nous dit, par contre, c'est long parce que il y a des listes d'attente.
Ouais.
C'est 5 ans d'attente en moyenne.
Ah oui.
Ouais. Sauf si vous trouvez une donneuse. Alors, les gens disent, oh, mais tu te rends compte, tu vas trouver une donneuse et en fait, tu vas porter son enfant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu trouves une donneuse qui donne ses ovocytes à la banque et en échange, on te donne des ovocytes d'une femme que tu ne connais pas.
Ah, d'accord.
Voilà. Et dans ces cas-là, tu as un délai d'attente qui est beaucoup moins long puisque c'est en moyenne 1 an. Puisqu'en France, le don d'ovocytes n'est pas rémunéré comme dans certains pays. Aller donner ses ovocytes en ayant eu avant un traitement médical, c'est pas simple non plus. On fait pas ça de gaieté de cœur, les piqûres, les échos et tout ça, pour au final rien. C'est juste un don, c'est juste quelque chose de beau, bien sûr, mais c'est pas... Il n'y a rien derrière, donc les femmes, c'est pas évident. Mmh. Et puis de se dire qu'elles ont peut-être un enfant quelque part aussi. C'est pas... Donc on se dit, oula, 5 ans, on commence à vieillir, entre guillemets, parce qu'on n'est pas vieux, mais bah, plus on avance en âge, moins on est fertile, on supporte les traitements, etc. Enfin voilà, il faut penser à tout ça. Donc au boulot, mes collègues le savaient, parce que je cachais rien. Mmh. J'étais très ouverte dessus parce que le mensonge, j'avais vécu pendant mon enfance et je voulais pas. Donc j'étais très ouverte et plutôt que de dire bah non, on n'a pas envie d'enfant ou c'est un peu difficile, bah non, je disais les choses.
Ouais.
Bah on peut pas, on fait des fives. Voilà. Ça évite aussi les ragots. Hein. Les gens pensent après et puis il y a des choses qui se disent comme ça. Non, les choses étaient très claires. Donc j'en parle et il y a une de mes anciennes collègues qui me dit bah écoute moi j'ai envie de les donner.
Ah.
Je lui dis attends, t'es sûre? Parce que c'est pas juste tu fais un don comme ça, enfin il y a tout un processus quand même, c'est pas si simple, il faut quand même réaliser la chose. Elle me dit écoute, moi j'ai déjà un enfant. Parce qu'il y a des conditions, en plus, il faut avoir moins de 35 ans, avoir déjà eu un enfant, en bonne santé, il faut que le conjoint soit d'accord, enfin voilà, c'est... en plus, il y a pas mal de conditions. Bon, elle avait toutes les conditions requises, donc il n'y avait pas de souci. Et elle me dit, écoute, j'ai envie de le faire, j'ai envie de vous aider parce que ça me touche.
Génial.
C'est une chance dans la vie qu'on ne peut pas imaginer.
Ouais.
C'est incroyable parce que... Qui peut faire ça comme ça de façon totalement gratuite.
Mmh.
Alors mes amis, certaines sont venues me voir en me disant j'aimerais mais je peux pas. Je dis mais il n'y a pas de jugement. Enfin je l'entends tout à fait. D'ailleurs je demande rien à personne.
Ouais.
C'est pas, on peut pas demander ça comme ça. Tiens pendant un repas au fait ça te dit pas de me filer tes ovocytes. Non ça se demande pas. C'est mmh. Et donc, ben, on a fait nos petits entretiens avec psychologue, médecin, etc. Et elle a fait son don. Donc, elle a peut-être des enfants maintenant, sans le savoir. Hein, elle a pu peut-être réaliser le rêve d'une femme.
Mmh.
Donc, ça, c'est génial. Et nous, en échange, on a eu la chance d'avoir un don d'une autre femme assez rapidement.
Donc, ça a pris combien de temps?
Ça a pris... entre le tout début et le jour où on m'a fait ce transfert, je dirais à peine un an. Même pas un an. Et donc j'ai eu les résultats de la prise de sang, puisque pareil, donc on m'a implanté donc cette fois un embryon de très bonne qualité.
Mmh.
Donc comme quoi, mon mari, voilà, il n'y avait pas de souci. Hein, il pouvait tout à fait avoir des enfants. Moi aussi de mon côté, mais a priori pas ensemble. Et j'attends 15 jours et je sens que ça ne marchera pas.
Ah oui.
C'est bizarre, hein, je ne sais pas comment je peux l'expliquer parce que j'entends toujours ces femmes ou mes amis qui disaient « Oh, je sentais que j'étais enceinte ». Mais moi, je ne sais pas comment elles pouvaient sentir ça parce que moi, je ne l'ai jamais senti.
Mmh.
Je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et je sais que là, non. Et c'est ma dernière chance.
Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Là, tu as qu'un seul essai avec le don d'ovocytes?
J'ai qu'un seul essai. J'ai qu'un seul essai puisqu'il n'y en a pas d'autres. Et je me dis que de toute façon, je ne me vois pas recommencer. Ça veut dire retrouver quelqu'un? Non, c'était déjà inespéré. Donc, je peux pas recommencer. Donc, je sais que si je ne suis pas enceinte, c'est fini.
Voilà.
Je ne le serai jamais. Donc, en parallèle, on parle un petit peu d'autres... je le dis pas, mais ça fait quand même des mois et des mois qu'on parle d'autres solutions avec mon mari, parce que cette famille, on va l'avoir, on le sait. Comment, on sait pas encore, mais on va y arriver. Donc, on avait quand même parlé déjà de l'adoption.
Ouais.
Parce qu'il était hors de question qu'on s'arrête là. Mais une chose à la fois. Donc voilà, on a ça dans un petit coin et j'attends les résultats le jour de mon anniversaire. Ça, je crois que j'oublierai jamais.
Ah oui.
Je fais la prise de sang le matin, mon mari travaille. J'attends. Je vais pas au labo parce que je suis incapable de me déplacer. Je sais que si j'ai les résultats au labo, je vais m'effondrer, je vais pas tenir. Et j'aime pas qu'on me voit pas bien. Ça, je peux pas. Il faut toujours que je sois forte. Donc, j'appelle le labo et elle me dit « Je suis désolée, madame. » Bon, bah là, c'est la fontaine.
Ouais.
Et voilà, bah, c'est fini. Donc, je sais plus si c'est moi qui appelle mon mari ou si c'est mon mari qui m'appelle et qui me dit « Bah, c'est pas grave, on va continuer. » Enfin, voilà, il essaye de me remonter le moral, mais je sais que lui, il est effondré aussi, hein. Mm. Le pauvre, il avait prévu un petit resto le soir même, il m'avait acheté un petit cadeau. Il m'a dit « Bon, je crois qu'on va reporter tout ça, on verra plus tard. » C'était pas le bon jour. Voilà, le pire anniversaire de ma vie.
Oui.
Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein.
À ce moment-là, tu vois toujours ta psy
Je crois que non, je crois que j'avais arrêté, il me semble.
Mm.
C'est plus très clair. Hein. Je crois que non, mais j'avais fait tout un chemin avec elle. Et elle m'avait dit que voilà, si j'avais besoin, elle était disponible et qu'on avait fait un bon travail ensemble et que j'étais au clair, en fait, dans ma tête par rapport à la situation.
D'accord.
Donc, j'avais toujours ça à côté si besoin, hein, mais... J'étais quand même pas mal entourée par ma belle famille, par ma sœur. Ma maman, je lui en parlais pas trop parce que c'était compliqué. Ma mère biologique, c'est pareil. J'essayais de garder ça un peu pour moi, quoi. Je leur en parlais pas trop.
Et alors, comment se passent les jours d'après cette nouvelle?
Écoute, c'est un petit peu loin parce que c'était 2009, mais... Ben, j'avance et je me dis, allez, je fais mon papier et on fait une procédure d'adoption.
Direct, tu...
Direct, direct. Ça fait quand même déjà 4 ans qu'on galère. J'ai pas encore 30 ans, mais je sais que plus on attend et plus ça va être compliqué pour nous l'adoption. Parce que adopter, c'est pas non plus super simple. Et puis plus on avance en âge et plus on a des barrières par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport à plein de choses. Donc il faut y aller, il ne faut pas perdre de temps. On n'a pas perdu de temps pendant 4 ans. On avait besoin de ce passage-là, c'était important, il fallait le faire. Mais maintenant que voilà, on savait que c'était cuit, si on peut dire ça comme ça, il fallait continuer à avancer. Donc, direct, on se lance dans la procédure d'adoption.
Donc, c'est quoi les premières étapes? Est-ce que déjà, vous discutez avec ton mari pour savoir où est-ce que vous allez adopter l'enfant? Quels sont les pays que vous allez sélectionner? Et l'âge?
Donc, la première chose, c'est d'avoir l'agrément donc auprès du Conseil Général. Donc, pour avoir l'agrément, il faut compter à peu près une petite année. Donc, il faut rencontrer un psychologue, une assistante sociale, monter un projet, etc. Donc, voilà, ça prend un petit peu de temps. Il y a des étapes aussi, c'est-à-dire qu'on a des délais à respecter. On ne peut pas donner une réponse avant, parfois 15 jours après avoir eu la réunion, avec la psychologue. On a des délais comme ça à respecter pour la réflexion. Donc, ce qu'on avait prévu, en quelque sorte, c'était d'adopter un enfant jeune, puisqu'on n'avait pas 30 ans. Donc, enfin, mon mari avait 30 ans, mais pas moi. Donc, on voulait un enfant jeune. Au départ, on s'était dit pourquoi pas en France. Donc, on avait gardé cette option, mais on était plutôt parti sur l'étranger. Mais dans un premier temps, on était ouvert à toutes les propositions. Tant qu'on n'avait pas d'agrément... Bon, de toute façon, on ne peut pas chercher un pays d'adoption tant qu'on n'a pas l'agrément. Les demandes ne sont pas prises en compte. Parce qu'il y a déjà tellement de demandes que si ils acceptent les demandes sans agrément, c'est impossible pour eux, c'est trop compliqué. Donc voilà, on en parle, mais on attend l'agrément. Un an après, finalement, on reçoit l'agrément. Pareil, juste avant mon anniversaire. Et là, ça y est, on a l'agrément, on va pouvoir adopter, on va pouvoir avoir un enfant. Donc, on fait la fête pour mes 30 ans. J'annonce à tout le monde que ça y est, on a l'agrément et qu'on va avoir un enfant. Mais pas tout de suite, mais ça, on ne le sait pas encore. Mais voilà, c'est la première étape. Donc, une fois qu'on a l'agrément, il faut s'adresser soit aux OAA, donc c'est les organismes pour l'adoption, ou alors par l'AFA, c'est l'Agence française de l'adoption. Donc, c'est deux choses différentes. L'AFA, on dépose nos dossiers, mais on n'est pas forcément suivi. C'est pas personnalisé. Alors que dans un organisme autorisé pour l'adoption, c'est une association et on a vraiment un suivi. Donc, c'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, pour nous, c'était mieux. C'est ce qu'on voulait. On avait réfléchi à la France et en fait, un jour, je dis à mon mari, écoute, cet enfant... il ne sera pas de nous, biologiquement. Et moi, j'ai envie qu'il soit différent. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'un jour, on dise « Oh, dis donc, il ou elle, je ne savais pas. Oh, elle est mignonne, elle ressemble drôlement à sa maman. » Et ça, je n'avais pas envie. C'est bête, hein. Je ne sais pas si on peut... Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais moi, je ne voulais pas qu'il nous ressemble parce que je voulais que ce soit une évidence. Parce que moi, j'avais vécu toute mon enfance en entendant les gens me dire « Oh, qu'est-ce qu'elle ressemble à sa maman, les mêmes cheveux, toute blonde, toute frisée. » Et moi, j'avais envie de hurler « Mais c'est pas ma mère !» C'était pas méchant contre elle, mais c'était pour dire mais non, mais en fait, c'est pas la vérité. Et comme j'avais pas le droit de le dire, pour moi, c'était compliqué. Ouais. Donc, j'ai dit à mon mari « Je veux pas que notre enfant il ait l'impression que ce soit un secret et qu'on l'empêche de le dire. Donc je veux qu'il soit différent. » Donc on a dit ok, ce sera pas la France.
D'accord.
Après, en France, on peut très bien adopter un enfant métis. C'est pas le problème, hein, puisqu'il y a des enfants de toutes origines aussi en France. Mais je voulais pas prendre le risque, entre guillemets, voilà, d'avoir un enfant qui me ressemble, qui ressemble à mon mari. Voilà, c'était en tout cas, moi, la sensation que j'avais. Donc, on est parti sur l'étranger. Donc, j'ai pris la liste. J'ai envoyé à peu près 15 courriers à des organismes différents, sans regarder les pays. Donc, on a fait l'Asie, l'Afrique, enfin, vraiment très large. Et on n'a eu que des refus.
Ah oui ?
Ouais. Que des refus parce que trop de demandes, parce qu'on ne correspondait pas aux critères, parce qu'ils ne prenaient plus personne. Enfin voilà. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, on va pas pouvoir s'arrêter là comme ça. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai envoyé. Alors je dis une quinzaine parce qu'en fait, les OA, c'est par rapport au département où on habite aussi. Donc j'ai écrit à Marseille, mais. Une association à Marseille, mais parce qu'elle a accepté de travailler avec notre département. Mais on ne peut pas demander à n'importe qui.
D'accord.
Donc, il y en a une qui nous a répondu. Pour l'instant, c'est compliqué, mais recontactez-nous en janvier. Ah, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai gardé le petit courrier sous le coude et j'ai attendu janvier. Et au 1er janvier, j'ai envoyé ma lettre.
Ah oui.
Ah oui. On avait perdu trop de temps. Enfin, c'est le temps dans ces procédures, c'est notre pire ennemi, vraiment. C'est de voir les jours passer et se dire que rien n'avance, c'est compliqué. Donc non, il fallait vraiment avancer. Donc on a renvoyé un courrier et là ils nous acceptaient.
Ah.
Donc on a dit enfin. Et donc on a eu un entretien, voilà, on y est allé. C'est une association à Paris.
D'accord.
Et ils nous ont dit, voilà, on vous accepte, il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous propose un enfant.
Est-ce que pendant ce temps-là, tu échanges avec d'autres parents, soit qui ont déjà adopté, soit qui sont dans le parcours ?
Pas tout de suite. Tant qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle l'apparentement, quand on nous propose un enfant, pas tellement, non.
D'accord.
On vit ça un peu... nous dans notre coin et j'ai pas tellement envie d'entendre j'en ai marre d'entendre les ça va aller, ça va marcher, on a réussi. Voilà, j'ai envie de vivre un peu ça moi dans mon coin et de pas être bercée d'illusions ou d'avoir trop de négatifs en fait. C'est bizarre, hein, il y a des gens qui ont besoin d'en parler beaucoup avec d'autres, d'échanger. Nous, pas tellement.
Ouais.
On vit ça un peu dans notre coin. C'est un peu égoïstement, en fait. Mais voilà, c'est notre façon de faire.
Ouais. De vous protéger aussi, d'une certaine manière.
Oui, sûrement. Sûrement, oui. Parce qu'on a souffert quand même, et qu'on a besoin de, voilà, de, ouais, de se protéger, d'être dans notre bulle.
Ouais. Bon, alors là, vous avez l'apparentement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, il suffit juste d'attendre. Mais on sait
il suffit juste d'attendre, quand... mais on ne sait pas quand. Donc on vit, normalement. Enfin, on essaye.
Ouais.
Donc on continue à vivre, à partir en vacances, à travailler. Voilà, ça se passe. Et je crois que je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. C'est les femmes vont dire moi je me souviens quand j'ai perdu les os je faisais ça, moi quand j'ai reçu l'appel je faisais un gratin de pommes de terre. Mais je m'en souviendrai toujours, j'étais en train d'éplucher mes pommes de terre et le téléphone sonne. Alors au début on attend tous les coups de fil et puis au bout d'un moment on oublie, hein. Donc le téléphone sonne, mon mari décroche et là je le vois qui change de tête et qui me regarde et je suis avec ma pomme de terre et mon économe à la main. Et je le suis partout dans la maison pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il finit par accrocher, il me dit « ça y est, il est là, c'est un petit garçon ». Alors là, c'est ouf, rien que d'y penser, tu vois, c'est émouvant encore. Et je lui dis « mais comment il est ?» Il dit « bah je sais pas, on peut pas savoir, il faut qu'on y aille, ils veulent pas nous dire ». Alors, je renvoie un message, je crois, un texto, je sais plus, ou je la rappelle, je sais plus trop comment ça se passe, mais je lui dis, envoyez-nous une photo, s'il vous plaît, on veut une photo, ça fait trop longtemps qu'on attend, on veut savoir, c'était 2012, donc ça faisait 2 ans,
hein, eh oui,
quand même. Donc, on veut savoir, donc elle accepte, bon, elle se fera taper sur les doigts après, la pauvre, mais elle accepte de nous envoyer une photo, et là, bah, ça y est, c'est notre fils. On sait que c'est lui, quoi.
Vous saviez avant de quel pays il serait originaire ?
Oui, on savait que c'était la Corée du Sud.
D'accord.
Parce que c'était une association qui travaillait avec la Corée du Sud, donc on savait que c'était, c'était un petit Coréen.
D'accord.
Et que ce serait probablement un garçon, puisqu'il y avait plus de garçons à l'adoption que de petites filles. Pour une histoire culturelle chez eux, c'est, voilà, c'est comme ça. Donc on savait que ce serait un petit garçon. Et quand on a la photo, alors mes beaux-parents habitent quelques maisons à côté de nous. Forcément, vous ne le dites à personne, vous ne montrez la photo à personne. Non, bien sûr. La première chose qu'on a fait, c'est prendre nos manteaux et d'aller chez mes beaux-parents en disant « on a une photo à vous montrer
».
Et ensuite, on l'a envoyé à chacune de mes belles-sœurs en disant « est-ce que votre petit-neveu vous plaît ?» Et on l'a envoyé à tout le monde. Alors qu'on n'avait pas le droit. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Maintenant, il y a prescription, je peux le dire.
Oui.
Donc voilà. Bah, ça y est, quoi, c'était lui. Et on dit, bah, on fait quoi maintenant? On y va quand? On part? Ah non, non, pas tout de suite. Là, c'est juste l'apparentement, si vous acceptez. Après, il y a toutes les procédures. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On sait que c'est lui. Voilà.
Ouais.
Alors, on me dit, ça y est, t'es maman. Mais non, je me sentais pas encore maman. On se sent pas maman. Alors, oui, j'avais la photo, je savais que j'aurais un petit garçon, mais c'était pas encore assez concret, donc j'étais pas encore maman. J'étais enceinte, presque.
Ouais.
Voilà, c'était une grossesse. Mais j'étais pas encore maman.
Il avait quel âge?
Alors, quand on a eu sa photo, quand on l'a su, il avait 6 mois.
D'accord.
Donc ça faisait déjà 6 mois qu'il était là et alors il était en famille d'accueil, donc il était très bien, mais ça faisait 6 mois qu'il était là et nous on savait pas qu'il existait.
Ouais.
Quand même, c'est assez étrange.
Ouais.
Donc Donc on attend, on fait toutes les procédures. Alors ce serait un épisode complet dans le tourbillon s'il fallait que je détaille toutes les procédures. Ouais. C'est tellement long, complexe, on a eu tellement de barrières avec une convention de l'AE à l'époque qui était modifiée dans le pays d'origine. Enfin bref, c'est trop long, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses compliquées. On savait qu'il fallait aller le voir. Donc un premier voyage, puis un deuxième pour aller le chercher. Et moi, ma plus grosse phobie dans la vie, c'est l'avion.
Aïe.
Donc là, quand on m'a dit qu'il fallait prendre l'avion deux fois, j'ai d'abord pleuré. Et mon mari m'a dit « Mais t'as pas le choix !» J'ai dit « Mais j'y arriverai pas !» Donc voilà, ça c'était un autre travail pour moi très difficile, prendre l'avion. Mais le jour arrive, on reçoit l'appel en disant « Eh bien voilà, vous avez audience devant le juge en Corée, tel jour à telle heure, donc il faut être là et rencontrer votre fils quelques jours avant. »
Waouh ! Donc là, c'est combien de temps après le coup de téléphone ?
Plus d'un an.
Ah oui, quand même !
Eh oui. Donc en fait, régulièrement, on avait des photos, donc on le voyait grandir. On avait des photos très régulièrement, des bilans de santé tous les mois, mais bah, il était loin, quoi.
Ah oui.
Donc, on a eu l'annonce en 2012, au printemps 2012, et on est allé le chercher en juin 2014.
D'accord.
Deux ans.
Ah oui. Ouais.
Le premier voyage, c'était au mois de mars, je crois. Mars 2014.
Donc là, c'est la première rencontre.
Ouais, la première rencontre.
Tu survis aux deux vols.
Oh. Le premier vol, quand je suis arrivée devant la porte de l'avion et que l'hôtesse m'a fait un grand sourire, bienvenue madame, en fait, je me suis arrêtée, j'ai fait demi-tour. Et mon mari m'a dit, ah, ça suffit maintenant, tu montes dans l'avion et tu te tais. Donc j'avais pris ce qu'il fallait en médicaments pour être détendue. Mais c'était compliqué, j'ai vécu 10 heures horribles. Presque des heures de travail, tu vois, on va faire tout un chemin comme ça de grossesse.
Ouais.
Alors moi, j'ai pas souffert physiquement, je sais pas ce que c'est les contractions, enfin presque, parce qu'avec les traitements, parfois, c'est quand même pas simple. Mais malgré tout, ouais, j'ai eu un travail quand même qui a duré presque 11 heures. Voilà, 11 heures de vol. Bon, ça se passe bien quand même, on arrive, on a la rencontre. Les rencontres sont pas très intimes là-bas. Puisque tous les parents adoptants sont accueillis dans une grande salle et les enfants qui vont être adoptés arrivent tous ensemble avec leur nourrice.
D'accord.
Donc en fait, c'est un peu comme un hall de gare où tu as tout le monde et chacun doit trouver son enfant. C'est particulier. Ouais. Avec de la musique coréenne en fond, tout le monde est excité, les parents, les enfants. Enfin, c'est très particulier comme ambiance. Et notre nourrice arrive en retard. Tout le monde est là, sauf lui.
Voilà.
C'est jusqu'au bout. Je dis, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Donc, elle arrive très en retard. Donc, au lieu des deux heures, il nous reste plus que une bonne heure. Voilà, c'est pas grave. On le voit et on joue avec lui. On est dans cette grande salle. On comprend rien à ce qui se passe parce qu'on comprend pas le coréen. Mais on s'en fout. C'est pas grave. Oui. On est les plus heureux du monde et on se dit, mais mon Dieu, enfin, on y arrive.
Oui.
Donc voilà, on passe cette bonne heure ensemble.
Comment il réagit, lui ?
Alors lui, ils sont très très bien préparés, les enfants. C'est-à-dire qu'on leur explique depuis tout petit qu'ils ont un papa et une maman qui les attend. On a envoyé une photo, on a envoyé des jouets, des vêtements, donc ils savent. Après, il a deux ans, hein, donc on peut pas non plus lui demander de tout comprendre, mais ils sont en tout cas bien préparés. Donc quand il nous voit, je vais pas dire qu'il nous reconnaît, mais en tout cas nos visages sont familiers, parce que la nourrice lui a montré nos têtes. Donc on n'est pas complètement des inconnus. Alors on se comprend pas du tout. Mais c'est pas grave, après on joue, y a des échanges. Je me souviens, on avait ramené... Des petits flacons pour faire des bulles. On fait des bulles. C'est tout bête, mais en fait, ils rigolent et on est heureux et on n'a pas besoin de parler, on arrive à communiquer.
Ouais.
Et ce qui est très, très drôle, enfin drôle, c'est pas le bon mot, mais très touchant, c'est quand il s'en va, donc avec sa nourrice, il me prend par la main. Il a 2 ans, hein, donc il est tout petit. C'est... Parfois, j'oublie à quel point il était tout petit. Il me prend par la main et il m'emmène jusqu'à l'ascenseur avec lui. Et là, je me dis, mince, je suis obligée de le laisser.
Ouais.
Parce que bah, c'est pas encore mon fils. Même si moi, ça y est, je suis folle amoureuse, il n'y a plus que lui. Mais je peux pas.
Voilà.
Et je lui fais... Alors, ils sont pas très bisous en Corée. Le contact physique, c'est un peu compliqué. On s'embrasse pas, on se dit bonjour en s'inclinant. Mmh. D'ailleurs, quand il arrive, il nous regarde, mais il s'incline comme ça.
Mmh.
C'est très mignon. Et donc, les câlins, les bisous, ils sont pas... je lui fais quand même un bisou, hein, parce que ça m'est égal, j'ai besoin de le toucher, de le sentir. Alors, je parle beaucoup de moi, mais mon mari, c'est la même chose, bien sûr. Hein. C'est les mêmes sentiments. Je crois qu'il a été encore plus bloqué que moi, d'ailleurs. Il était très... Enfin, je le voyais, il bougeait plus, il était tout rouge, il ne savait plus quoi faire. Enfin, il perdait tous ses moyens, alors que ce n'est pas du tout son tempérament. Là, je voyais bien que... Il était très, très perturbé. Et donc, je le laisse à l'ascenseur, je lui fais un bisou, et la porte se ferme, et il me fait coucou. Et je repars, et je me dis, c'est quand la prochaine fois?
Ouais, ouais.
Et on sait qu'on reste à Séoul... On est resté une dizaine de jours, le temps de faire plein de papiers, plein de rendez-vous, etc. Et puis, on en profite pour découvrir son pays. Donc, on a visité, on a découvert plein de choses, ça a été merveilleux. Et on a eu cette chance aussi d'avoir une personne française qui vivait à Séoul, hein, qu'on avait rencontrée par des contacts, à l'extérieur. Donc, il y avait une personne sur place qui a pu nous guider et nous faire visiter le pays et nous expliquer beaucoup, beaucoup de choses sur le pays et la ville. Et ça a été une grande, grande aide, parce que quand on arrive dans un pays comme ça, c'est très déstabilisant. Et je me dis, heureusement qu'elle était là, elle nous a vraiment bien guidés. Donc, on a profité de ce séjour pour découvrir un peu le pays. Et puis, on est reparti. Voilà, c'est dur de repartir les mains vides comme ça, C'était pas juste des vacances, quoi. Nous, on y allait dans un but bien précis et on revient et on est que tous les deux.
Oui.
Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, il faut à peu près un mois, ils vous reviendraient le chercher. Donc on se dit, un mois, c'est rien.
Hein. Oui.
Depuis le temps qu'on attend.
Oui.
C'est pas... Et puis, le mois, il se prolonge un peu quand même. C'est un petit peu plus long puisque c'était mars. Et finalement, ça s'est fait en juin. Voilà, il y a eu un dossier qui a été égaré, des papiers qui n'ont pas été signés au bon endroit. Enfin, c'est un combat perpétuel.
Ouais.
Vraiment.
Il faut être solide dans l'attente, quoi.
Il faut être solide dans l'attente, il faut être patient, ce qui n'est pas trop mon cas. Je suis plutôt du genre à mettre des coups de pied là où il faut pour que ça avance vite. Un peu pénible, mais il faut avoir un tempérament quand même assez énergique. Et puis, on laisse pas tomber, on baisse pas les bras. On est au bout, quoi, on y arrive. Hein.
Mm.
Donc, il faut... Et puis le couple, il faut être bien soudé parce que quand il y en a un qui commence un peu à perdre espoir, entre guillemets, il faut que l'autre soit là pour dire non, accroche-toi, on y est presque.
Ouais. Vous aviez des nouvelles du petit pendant cette attente?
Oui, au moyen, on avait des photos. Alors c'est bien et en même temps c'est dur parce qu'on le voit grandir et on se dit on a loupé tout ça.
Ouais.
Il marche, il mange tout seul. Moi, je connaîtrai jamais tout ça. Voilà, tout ça, c'est perdu. Ça se rattrape pas.
Ouais.
Il y a d'autres choses qu'on va vivre après. Mais ça, en tout cas, on l'a pas.
Mm.
Après, on se console. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent que... ça reste une période de sa vie qu'on n'aura pas connue.
Mm.
Et puis, on attend avec la dame de l'agence qui nous a suivis, l'agence... pour le voyage, hein, pas l'organisme d'adoption, mais pour l'avion. Je l'appelais régulièrement, dites-moi, est-ce qu'il y a encore des places, les billets, parce que il faut aussi les acheter.
Oui.
Et tout ça, il y a un coût derrière. Il y a les billets d'avion, il y a le séjour sur place, il y a aussi les frais d'adoption. Il faut faire des économies, un peu, quand même.
Ça a représenté combien de budget ?
Je pourrais pas dire parce que j'ai un peu occulté toute cette partie, mais on a eu de l'aide par nos familles et nos amis. Il y a eu des cagnottes qui ont été faites au boulot. Il y a eu voilà des aides de nos patrons, etc. Donc on n'a pas peiné pour ça, mais je me dis que certaines personnes doivent galérer bien plus que nous parce que ça coûte très cher.
Ouais.
Après, ça dépend des pays d'adoption aussi. Donc, on peut pas comparer. Quoi. C'est très, très différent selon le pays. Par contre, il n'y a aucune aide de la France. Hein. Ça, on est bien d'accord. Il n'y a pas de congé mat avant. Donc, moi, je ne m'y connais pas trop, du coup, au congé mat. Mais il y a quelques semaines avant l'accouchement, nous, on n'a pas tout ça. Hein. Donc, on n'a pas le temps de se préparer. Quand on doit partir, on part et on bosse jusqu'au bout. Et on n'a pas ce temps pour se préparer, pour préparer chez nous. C'est un temps qui n'existe pas.
Mmh.
Donc, voilà, du jour au lendemain, on devient parent. Tu me diras, ça fait 10 ans qu'on attend. Hein. On a eu le temps de se préparer, mais pas de façon très spécifique pour cet enfant-là, en tout cas.
Oui, et puis même au travail, tu dois partir du travail du jour au lendemain, finalement.
C'est ça, ouais. Je les avais prévenus.
Ouais.
J'avais changé de poste. Je ne travaillais plus le week-end, parce que ça, c'était important aussi pour le pays d'adoption. Il fallait avoir des parents disponibles, ce qui peut s'entendre. Hein.
Mm.
Donc, le fait de travailler un week-end sur deux, c'était pas simple pour eux. Des journées de 12 heures. Donc, j'ai changé de poste. J'avais un poste de jour. Je faisais 9h, 17h tous les jours. Mais j'ai tous mes week-ends. Et mon mari, entre-temps, a changé de poste aussi. Donc, on ne travaille plus le week-end.
D'accord.
Donc, ça, c'est très positif pour eux et pour nous. Donc, je leur avais dit, un jour, on va m'appeler, je pars. C'est ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel le mardi après-midi. Donc, ma collègue Fabienne, je peux le dire parce que je suis sûre qu'elle écoutera c'est bête, mais c'est hyper émouvant parce que je revis tout.
Ouais.
Et ça a été un très, très gros soutien pour moi.
Mmh.
Et elle l'a vécu avec nous, vraiment. Et quand j'ai reçu l'appel, elle était là. Je ne sais pas qui pleurait le plus, si c'était elle ou moi, mais on pleurait toutes les deux. Et je lui dis, écoute, je m'en vais. Ça y est, je pars. C'est fini. On a décollé le jeudi.
D'accord.
Le mardi, j'avais l'appel. Le mardi soir, j'étais partie acheter les billets d'avion. Et le mercredi, je faisais mes valises. Et le jeudi, on était dans l'avion.
Voilà. Donc la retrouvaille avec ton petit chou.
Ouais.
Et retrouvaille pour toujours, en fait, cette fois-ci.
Pour toujours. Mm-mm. Ouais. Là, on arrive et la nourrice arrive. Et il faut encore repasser devant le médecin. Faire les papiers, elle part et elle nous le laisse, quoi. C'est pour elle, j'arrivais même pas à mettre à sa place, c'est horrible. Pendant 2 ans, elle l'a élevé, et là, il faut qu'elle le laisse. C'est terrible, hein. Donc, elle nous accompagne dehors, devant le taxi, donc elle lui dit au revoir. Ils se parlent en coréen. Enfin, nous, on est en dehors de tout ça. Je le prends dans les bras, je l'assois dans le taxi. Et puis, je lui dis au revoir. Et alors, forcément, la pauvre, elle pleurait. Donc, je la prends dans mes bras. Elle a un espèce de mouvement de recul en disant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me touche. Mais moi, je peux pas, je suis obligée de... Et je lui parle en français. Je lui dis, mais merci, mais jamais on vous oubliera. Enfin, c'est elle qui a fait aussi qu'il est comme ça aujourd'hui. Enfin, pendant 2 ans, elle l'a guidé, accompagné. Ça a été sa mère de substitution, en quelque sorte. Enfin, Et on monte dans le taxi, on part tous les trois, avec ce petit bonhomme sur les genoux qui comprend rien, qui se demande un petit peu ce qui se passe quand même.
Ouais.
Et jamais il va pleurer. C'est incroyable. Il pleure pas, il est sur nos genoux, on part. On se dit, en fait, on fait quoi maintenant ? On est dans un pays qu'on ne connaît pas.
Ouais.
On ne sait pas trop. Enfin, alors, on se dit, attends, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller manger. Oui, on va manger. Mais qu'est-ce qu'il aime ? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va ? On est un peu... même si on est censé être prêt, mais non, en fait, c'est bizarre, c'est particulier. Donc, en plus, on est dans un quartier où il n'y a pas tellement de petits restos typiques. On est plutôt dans un quartier affaires et compagnie, donc on se retrouve au McDo. Génial. Comme première pas, c'est nul. Mais c'est pas grave, on se dit au moins, les frites, c'est une valeur sûre, quoi. Les enfants, ils aiment tous les frites et les burgers. Donc, on se retrouve au McDo. Donc voilà, il mange, il avait des nuggets, je crois. Donc il mange des petits nuggets et tout. Et puis il nous regarde et il sourit tout le temps. Et il dit Appa. Appa, ça veut dire papa. Alors il dira pas maman. Il dit papa, Appa, Appa, tout le temps. Alors je me dis, bah mince. Après, on sait. Hein. Un enfant, quand il arrive, il a besoin de se fixer à l'un des deux. Il peut pas se fixer aux deux parents en même temps. C'est trop compliqué pour lui. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc je m'étais préparée psychologiquement en me disant « Peut-être qu'il ne voudra pas de moi. » On se dit « Oh non, ça n'arrivera pas. »
Ouais.
Et bon, donc c'était « Appa ». Bah voilà, c'est comme ça. Hein. Donc ils sont un petit peu plus proches qu'avec moi, mais c'est pas grave, ça va venir. Donc ça se passe, on l'emmène dans un parc pour enfants très connu là-bas, un petit personnage très connu qui est un pingouin qui s'appelle Pororo. Donc on l'emmène dans le parc pour Oro, on s'amuse, on revient à l'hôtel. Et lui, toujours quand on est dans la chambre d'hôtel, il essaye de sortir. Il a bien repéré qu'il y avait un petit boîtier pour mettre la carte, pour ouvrir la porte, pour aller dehors. Donc on lui dit on va aller manger. Donc on fait les gestes, on mime tout. Bon, on va aller dîner. Donc il prend la petite carte, il comprend qu'on va manger, donc il essaye de partir. Il est à l'aise et en même temps, on sent que il est pas chez lui, quoi. C'est bizarre. Donc on va manger, le soir on rentre, on prend un bain, je prends un bain avec lui, je me dis voilà, on va créer une intimité. Peut-être que de passer comme ça dans le jeu, le bain, qu'il me voit, il n'y a pas de mystère entre nous. Ça crée quand même une certaine intimité de prendre un bain avec son enfant, je pense. On se couche, et là, il se dit mince, en fait, je vais rester.
Mm.
C'est là qu'il comprend qu'il va dormir avec nous et que il doit rester.
Ouais.
C'était pas juste une petite journée comme ça sympa avec des inconnus qui lui offrent tout ce qu'il veut, qui lui font que des sourires, on lui aurait décroché la lune, quoi.
Mm.
Non, faut que je reste. Donc on avait un grand lit, je me souviens, il y avait un grand lit et un petit lit pour lui, mais on a dormi tous les trois dans le même. On l'avait mis entre nous et là il se met à pleurer, mais alors à pleurer inconsolable.
Mmh.
Et ça dure comme ça pendant... Alors, c'est pas très long, hein, un quart d'heure, mais pour nous, c'était une éternité, parce qu'on savait pas comment le consoler. On avait beau lui expliquer, je me dis, pour lui, ça doit être terrible. Et c'est comme une naissance, on dit que les enfants qui vivent une adoption naissent une deuxième fois.
Ah oui.
C'est une renaissance avec les nouveaux parents. Et bien là, en fait, c'était, je pense que c'était ça, en fait, une nouvelle naissance pour lui. Donc il pleure, inconsolable, et il finit par s'endormir d'épuisement à force d'avoir pleuré. Et nous aussi, bon, je dis pas qu'on dort très bien, hein, mais en tout cas, la nuit se passe. Et le lendemain matin, il ouvre les yeux et c'est fini. Plus jamais de pleurs. Voilà, ça se passe comme si c'était rien passé la veille. La journée se passe normalement, tout va bien. Et on a quand même cette personne qui vit en Corée, cette Française, qui nous suit un peu et qui lui parle du coup coréen.
Mmh.
Donc ça, c'est une chance aussi, parce qu'elle explique en coréen. Et heureusement, parce que nous, on ne pouvait pas le faire.
Ouais.
Donc peut-être que ça l'a aussi un peu rassuré, hein, mais il n'est pas coupé net de sa langue maternelle, de ses origines.
Mmh.
Donc elle explique un peu les choses, et puis... Et puis, je sais plus, je crois qu'on est resté 2 jours, hein, parce que les vols étaient prévus. Et après, on prend l'avion, et on l'installe dans l'avion, et il s'assoit, il regarde devant lui, et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'il est en train de vivre?
Ouais.
C'est. Nous, oui, mais on est adultes, et voilà, on peut exprimer nos sentiments. Mais lui, c'est. C'est terrible, quoi, c'est un changement. Ouais. Et puis voilà. Et ça y est, on arrive en France. Et on est 3 cette fois.
Ouais, retour à la maison.
Ouais.
Il découvre du coup la vie en France, vous lui apprenez la langue, vous, il va à l'école.
Ouais. Bah alors du coup, il a 2 ans et demi.
Ouais.
Donc on arrive en juin et on l'a déjà inscrit à l'école. En fait, notre volonté aussi, c'était qu'il puisse vivre normalement comme tout le monde et qu'il fasse sa rentrée comme tout le monde. Voilà. Alors moi, j'avais le droit à un congé, cette fois quand même maternité.
D'accord.
J'avais le droit à mes 10 semaines.
Donc, okay.
Voilà, même si c'était pas un accouchement, c'était une adoption, donc c'était reconnu. Donc j'ai le droit à 10 semaines. Ce qui est quand même, après, court, parce que faut se découvrir, faut l'apprentissage de la langue, enfin, ça passe vite, hein. Mais on y arrive très bien. Il a un petit peu de mal avec la langue, c'est compliqué pour lui, le français. Mais on se comprend très bien. Je dirais qu'au bout d'une semaine, 15 jours, si je lui disais on va prendre la douche, sans lui faire de signe, il allait directement dans la salle de bain.
Mmh.
Il avait compris. Donc en fait, il comprenait tout très très bien. C'est juste qu'il pouvait pas lui parler. Mais sinon, c'était. Voilà, il était déjà chez lui.
Mmh.
Et puis on avait le comité d'accueil. Parce qu'on est arrivé le lendemain, il y avait déjà toutes ses tantes qui attendaient. Chez mes beaux-parents, tout le monde était là, c'était la fête.
Mmh.
Tout le monde le connaissait, c'était déjà, il faisait partie de la famille.
Ouais.
Tout le monde l'a attendu autant que nous, donc c'était, voilà, c'était enfin la famille au complet.
Ouais.
Donc voilà, il a fait sa rentrée à l'école en septembre. Donc comme toutes les mamans, première rentrée scolaire, bah, j'ai pleuré. j'ai regardé l'heure, j'ai guetté, j'ai eu un mois entier où je n'ai pas travaillé, du coup, où j'ai pu aller le chercher tous les midis, donc il faisait que des demi-journées. Au début, ça allait, puis après, la séparation était compliquée pour lui, il pleurait beaucoup. Il me tapait, il me tirait les cheveux, il était fâché contre moi parce que je le laissais.
Ouais.
Et en même temps, on pouvait comprendre.
Mmh.
Il avait déjà vécu deux abandons, en quelque sorte. Le premier avec sa mère naturelle, qu'il l'a laissée à la naissance. Et puis sa nourrice, qui nous l'a confiée. Donc ça faisait déjà 2 fois que les femmes
ouais.
l'abandonnaient, quoi. Donc moi, j'étais la troisième, j'ai pris pour les autres. voilà, il était un peu fâché. Et d'ailleurs... les 15 premiers jours à la maison, il voulait voir que son père.
Mmh.
C'était son père tout le temps, et moi, pas tellement. Et puis, bah, son père est reparti travailler avant moi, hein, parce qu'il n'avait que 15 jours. Donc, je lui dis, tu sais, on va être que tous les deux. Et bah, moi, je t'aime, je suis ta maman, et tu vas apprendre à m'aimer. Parce qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et c'est moi ta maman maintenant. Et je crois qu'il a compris quand même.
Ouais.
Il a compris les paroles et il a senti que ben oui, j'étais là pour lui. Donc petit à petit, ça s'est fait et là, il s'est ouvert et après c'était bon quoi.
Mm.
Et aujourd'hui, il a 10 ans, mais il fait toujours autant de câlins. Il est très très câlin.
Tu lui as expliqué son histoire, j'imagine?
Alors, Alors, de toute façon, on a toujours été très, très ouverts. Ça, c'est vraiment notre règle de vie. Hein. Tout se dire, en tout cas, tout ce qu'il est possible d'entendre à son âge. Donc, il connaît son histoire. Après, l'histoire de sa mère, le pourquoi, ça lui appartient. Et pour l'instant, il n'a pas demandé. Et quand il voudra savoir précisément... Bah, il a un papier, tout est écrit, où il pourra lire. Mais voilà, ça c'est quand il en fera la demande. Et bien sûr qu'il pourra tout connaître.
À partir de quel âge vous avez commencé à lui expliquer ça s'est fait peut-être au fil de...
Oui, en fait, ça s'est fait au quotidien.
Ouais.
Au quotidien, on lui a toujours appris... on a toujours parlé de sa nourrice, on a toujours parlé de son pays. Ça a toujours été faisant partie de notre vie. Donc, et encore aujourd'hui, où il grandit, où les enfants maintenant... Avant, les enfants ne faisaient pas attention à la différence. À l'école, je me souviens, ses copains disaient « Ah oh, bah Gabriel, on comprend pas, il parle anglais. » Parce qu'il parlait pas bien français, mais il voyait pas que physiquement il était pas pareil. Il avait des petits yeux bridés, voilà, il voyait pas tout ça. En grandissant, ça commence à changer. Et là, il va rentrer en sixième et c'est là où il va falloir être attentif parce qu'il va y avoir des réflexions, il va y avoir peut-être des moqueries, mais comme tous les enfants, quelle que soit l'origine, hein, mais voilà, il va falloir qu'on soit un peu plus attentif à ça. Mais encore aujourd'hui, il le sait. Je lui dis, tu sais, Gabriel, ben voilà, tu sais que tu as été adopté, que ta maman ne pouvait pas s'occuper de toi, que nous, on est devenus tes parents. Enfin, c'est une évidence, en fait. On n'a pas besoin de... C'est au quotidien, comme tu dis, ça s'est fait au fil du temps. Après, s'il a une question, et d'ailleurs, il pose très peu de questions.
Oui.
Parce que... Alors, j'espère... C'est parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il sait ce... Voilà. J'espère que c'est ça. On est assez ouvert, donc j'ai l'impression qu'il est plutôt bien dans ses baskets. Après, bah, comme tous les enfants de son âge, il y a des conflits. Il y a la préadolescence qui arrive.
Oui.
Je sais que l'adolescence, ça va être compliqué parce que peut-être qu'un jour, il aura des paroles blessantes. Mmh. Et c'est normal. Ça fait partie du processus. Bon, bah, on va s'y préparer comme le reste. Ça fera pas plaisir, mais c'est comme ça. Donc j'espère, j'ai l'impression qu'il est bien dans ses baskets, en tout cas aujourd'hui. Et de temps en temps, on regarde les photos. Et on avait prévu de partir en 2020 à Séoul avec une de mes belles-sœurs. On avait prévu un voyage et on lui en avait parlé. Voilà, on va retourner dans ton pays d'origine. Est-ce que tu voudrais revoir ta nourrice? Est-ce que, voilà... On lui a demandé, il était d'accord. On en avait fait la demande auprès de l'association, qui n'était pas trop pour.
Oui.
Bon, ils avaient peur que ça le perturbe, que ce soit compliqué. Nous, on était pour. Il avait dit oui. Je lui ai dit, jusqu'au dernier moment, si tu me dis non, on annule. C'est pas un problème. Et puis, bah, voilà, hein. Il n'y a pas d'explication. C'est ce qui s'est passé entre-temps. Donc, le voyage a été annulé. Parce qu'on devait partir en avril. Donc, on était vraiment au tout début. Donc on n'a pas pu partir et puis bah aujourd'hui on ne sait pas encore, c'est compliqué, peut-être qu'on partira en 2023. Mais voilà, ça a été un projet voilà, qui a été abandonné, qui reste en suspens malgré tout.
Et alors toi qui as une histoire
atypique
effectivement, du début à la fin finalement, dans tout ton rapport à la maternité, que tu sois enfant ou mère, quel regard tu portes sur ce parcours, justement, parce que de ta famille idéale?
Alors, ma famille idéale, c'était, c'est sûr, hein, on n'est pas sur le schéma que j'avais imaginé avec 2-3 enfants, tomber enceinte facilement, vivre une grossesse, enfin tout ce que j'avais prévu. Je crois que depuis le temps, j'ai accepté tout ça. Je pense que réellement, c'était pas mon projet. Je crois, mais ça, c'est après, c'est chacun pense un peu comme voilà, à sa façon, hein. Mais moi, je me dis toujours que les choses sont prévues, en tout cas pour moi, et que c'était écrit comme ça, et que je devais passer par cette étape-là pour devenir mère, et que j'étais pas faite pour être mère au sens classique du terme, mais que j'avais cet enfant qui m'attendait, et qu'on était fait pour lui, en fait. C'était lui, et il fallait tout ça pour arriver jusqu'à lui. C'était notre chemin. C'était pas le chemin le plus court, certes, mais avec le temps, je n'ai pas de regrets sur tout ce qu'on a essayé, tenté, tout ce qu'on a fait, parce que maintenant on est heureux et cet enfant nous rend tellement tout ce qu'on a pu donner nous, que bah, c'était bien comme ça en fait. C'est bizarre de dire ça parce que on en a bavé, pour être poli, parce que j'aurais pu employer un autre mot, mais on en a bavé vraiment. Mais c'était fait comme ça, quoi. Et tant mieux. Et peut-être que ça m'a donné aussi une certaine maturité pour pouvoir devenir sa mère. Et peut-être que j'avais ce petit truc en plus que les autres n'avaient pas pour comprendre ce qu'ils pourraient vivre après. Donc après. J'avoue que quand j'ai eu 40 ans, c'était il n'y a pas longtemps, hein. là j'ai 41 ans, mais quand j'ai eu 40 ans, c'était dans ma tête une étape dans ma vie, parce que les gens, encore une fois, gentiment, mais te disent, maintenant que tu as adopté, tu vas tomber enceinte comme ça, tu vas même pas t'en rendre compte. Mais ça, en fait, non, quoi. C'est, ça arrive, hein, mais pas chez nous. Donc je m'étais dit, après tout, pourquoi pas ? Peut-être qu'un miracle, peut-être qu'un jour je serai enceinte. Et je m'étais dit, à 40 ans, ma fille, c'est cuit. Hein. Maintenant, 40 ans, voilà, c'est un peu la barre, quoi. C'est la limite où t'es plus enceinte. Et quand j'ai eu 40 ans, je l'ai mal vécu en me disant, non, ça y est, là, une deuxième fois, c'est vraiment fini, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne seras jamais enceinte. Ça n'a pas été facile. Donc, je pense que je ne ferai jamais le deuil d'une grossesse. Parce que pour une femme, c'est important de porter un enfant. Moi, je connaîtrai jamais ce sentiment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Faire le deuil d'une grossesse, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, j'ai la vie que je voulais aujourd'hui et je suis très heureuse. Mais il y a cette ambivalence de sentiments entre j'aurais jamais connu ce que les autres ont connu, mais moi j'ai connu autre chose et c'était tellement beau aussi.
Vous avez jamais voulu adopter une seconde fois un second enfant ?
Si on y a pensé. Il aurait fallu faire tout de suite parce que après si on attend recommencer toutes ces galères c'est compliqué. J'avais dit à mon mari on recommence tout de suite, il m'a dit oui et puis on s'est installé dans notre vie aussi, on avait besoin de ce temps pour être ensemble, bien s'installer, être heureux. Ça coûte aussi beaucoup, ça veut dire encore se priver sur certaines choses. On n'avait pas envie de le priver de quoi que ce soit. Et puis on a eu une adoption idyllique dans le sens où ça s'est très bien passé. Repartir dedans, peut-être le déstabiliser lui, vivre une adoption peut-être moins bien, avec des difficultés avec l'enfant, est-ce que ça peut pas mettre en péril notre famille ? Au début, j'étais un peu fâchée, entre guillemets, je disais à mon mari quand même, il va être tout seul, je veux pas d'un enfant unique. Je veux qu'il ait des frères et sœurs. Et puis voilà, on a vécu d'autres choses, on a voyagé. On a pu faire des beaux voyages tous les trois. On est heureux, on a une stabilité. Après, il faut aussi accepter que ce soit comme ça. On n'a pas pris le risque de se relancer tout de suite et puis avec le temps. Maintenant, c'est un peu tard. On est trop vieux déjà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Je pense que tout le monde répond un peu la même chose. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Ça change ta façon d'être. Ça change tes priorités. Ça change aussi... ça change intérieurement. Moi, je suis plus la même qu'avant qu'il arrive. J'ai grandi. J'ai accepté aussi les erreurs du passé, ou en tout cas ce que j'ai vécu avant, des choses, j'en voulais à maman, j'en ai voulu à ma mère biologique, et tout ça, j'ai fini par accepter en me disant ma vie elle est là aujourd'hui, on va pas vivre dans le passé, il y a des torts et voilà, tant pis, j'avance. Et en fait, j'ai accepté mon passé. Et puis, je suis plus en paix, on va dire, par rapport à tout ça. Et je pense que mon papa, qui n'a pas connu mon mari, ni mon fils, je pense qu'il est content, qu'il est fier de moi. J'espère. Ouais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Mm-hmm.
C'est quoi pour toi être une maman orléanaise ?
Être une maman orléanaise, c'est vivre dans un coin très sympa, à la campagne et en même temps avec tous les avantages de la ville. Parce qu'à Orléans, on a quand même pas mal de choses. On n'est pas très loin de Paris, donc on a accès à pas mal de choses. C'est une ville sympa, Orléans. Enfin, moi, j'y ai toujours vécu, donc c'est un coin que j'aime bien et on s'y sent bien.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Orléans ?
Alors, ça va être à Olivet, donc là où on est vraiment, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on est très très limitrophes, hein. c'est la ville d'à côté. À Olivet, on a les bords du Loiret, donc la petite rivière. Et c'est un endroit très sympa où on peut se balader. Et il y a des jeux pour les enfants. Il y a beaucoup d'animaux, des cygnes, des canards. Voilà, c'est très joli. C'est un coin qui change au fil des saisons. Et on aime beaucoup s'y balader toute l'année. C'est très, très cool.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors, rien que pour moi... Et j'ai développé une activité en plus de mon métier d'infirmière en tant que styliste beauté chez Jolie Moi. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Voilà, donc c'est un boulot indépendant à côté. Donc j'espère développer un peu mon équipe, m'épanouir. C'est mon petit boulot fraîcheur en plus de mon métier d'infirmière. Donc ça, c'est très cool. Donc voilà, j'ai envie de développer un peu ce côté-là. Ça, c'est mon projet perso. Et le projet en famille, c'est, je pense, de pouvoir enfin partir à Séoul tous les trois, parce que bon, ça a été reporté. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir partir. Et peut-être juste avant, partir en amoureux avec mon mari, parce que ça va faire 20 ans cette année qu'on est mariés. Donc on aimerait bien se faire un petit voyage tous les deux. Mais voilà, et laisser Gabriel, ce qui n'est pas forcément simple. Mais lui sera très content. Mais partir tous les deux en amoureux, ouais, on aimerait bien.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci à toi, Shane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.